Hervé Breton, bonjour. Donc, je m'appelle François Hatto. J'étais plutôt jusqu'à une période récente ingénieur pédagogique ici à l'Université de Tours. Je suis maintenant conseiller mobilité carrière. Je t'interroge ce matin pour essayer de mieux comprendre la différence et éventuellement les convergences entre ingénierie pédagogique et ingénierie de formation. Et avant de démarrer cette interview, ben, j'aimerais bien que tu te présentes un peu.
Bonjour François, merci pour cette invitation. J'en profite pour remercier et saluer Baptiste Doucet et Cécile Goy qui coordonnent l'ouvrage et c'est dans ce cadre que l'invitation m'a été transmise. Moi je m'appelle Hervé Breton, je suis professeur des universités en sciences d'éducation et de la formation au département du même nom des sciences d'éducation et de la formation à Tours, à l'Université de Tours. J'ai fait une thèse avec Gaston Pinault sur la formation par le voyage. Donc ça n'entretient pas un lien complètement direct avec l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique. Je travaille dans le domaine, on pourrait dire, de l'éducation des adultes. Éducation et formation des adultes, qui est un petit domaine, hein, on pourrait dire un domaine des sciences d'éducation. Mais pas le domaine principal, mais c'est vraiment le champ qui nous occupe à l'Université de Tours. Et je suis responsable d'un master qui s'appelle Stratégie et ingénierie en formation d'adultes, qui là a des liens tout à fait concrets et directs avec l'ouvrage qui a été constitué.
D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot de la manière dont tu vois, toi, l'ingénierie de formation?
Oui. Je dirais, on pourrait la penser selon une perspective presque socio-historique. Là, je suis venu avec l'ouvrage de Carré et Caspar, Traité des sciences et techniques de la formation. Pourquoi j'aime bien cet ouvrage? C'est que Caspar, qui est maintenant décédé, Pierre Caspar, quand il venait, il est venu faire des interventions à Tours, et quand il parlait de l'ingénierie de formation dans les années 80, c'est presque les débuts en fait, les débuts des actions qui construisent des dispositifs et qui pensent en fait en tant que système des actions de formation auprès d'enfants ou d'adultes. Donc, on pourrait dire, selon une perspective socio-historique, ça pourrait presque être situé en tant que courant dans le champ de l'éducation des adultes, avec peut-être une inflexion avec la loi de 71, dans un essai d'objectivation, en fait, de ce que produit la formation sur le marché de l'emploi, notamment. Mais j'aime bien la penser, moi, en référence avec la théorie de Thierry Ardouin, parce que je trouve qu'elle est tout à fait concrète et opérationnelle. Parce que Ardouin différencie des niveaux, il dit qu'il y a le niveau politique de l'ingénierie. Donc ça, je pense qu'on va situer là le champ des certificateurs, le champ des donneurs d'ordre, peut-être aussi le champ des dirigeants des centres de formation. Après, il y a le domaine, donc ingénierie politique, ingénierie de la certification, ingénierie de formation qui est la construction des dispositifs, des plans de formation, et l'ingénierie pédagogique, dans son approche, c'est l'animation en fait. Des sessions concrètes avec le contact direct avec le public, l'agencement temporel des actions dans le temps en fonction du contenu, tout ce qui est là, on dit la progression pédagogique, tout ce qui relève en fait de la stratégie, mais au plus près des apprentissages. L'ingénierie de formation, elle est un peu située, on pourrait dire, entre le politique et le terrain concret de la salle. C'est comme ça que je le vois. Voilà.
D'accord. Donc, on avance un petit peu, mais du coup, la différence pour toi entre ingénierie de formation et ingénierie pédagogique, éventuellement aussi les zones de convergence?
Dans les fonctions, un ingénieur de formation, c'est, on pourrait dire, très simplement... c'est quelqu'un qui est garant du dispositif dans son ensemble. Si je prends l'exemple d'un master, l'ingénieur de formation, c'est la personne qui a la vision longitudinale en fait, de la formation. Du début, par exemple, un master, ça peut durer 2 ans, mais c'est divisé en 2 années universitaires. Mais le référent de la formation doit pouvoir avoir en tête en fait l'ensemble des étapes pour se porter garant de la cohérence d'ensemble. Ce qui peut différer en termes d'échelle de l'ingénierie pédagogique où la personne est référente principalement de son unité de contenu, on pourrait dire. C'est pas pour faire une hiérarchie de valeurs, hein, mais c'est pour montrer le type de portage. C'est pour ça que peut-être qu'il y a dans les certifications, en fait, des certifications de niveau 3 ou qui forment à l'ingénierie pédagogique, et on dit que les masters forment à l'ingénierie de formation, c'est-à-dire à la capacité, la connaissance des dispositifs, de leur agencement, de leur construction, du recrutement des équipes pédagogiques, du dialogue avec le certificateur. Donc c'est une affaire de, je dirais peut-être, de presque de périmètre, en fait, de périmètre de responsabilité. Alors dire que l'ingénierie pédagogique est moins complexe que l'ingénierie de formation, ce serait faux, ça. Parce que être au contact des apprenants, comprendre comment ils évoluent en fonction des contenus, essayer de faire en sorte que ça prenne sens en fonction de leur histoire individuelle, de leurs connaissances déjà acquises, ça c'est tout un travail qui mérite d'être examiné et considéré. Et je pense que on pourrait souhaiter que les ingénieurs de formation soient restés au contact de la pédagogie pour pas trop réduire la complexité des situations concrètes d'apprentissage, je dirais.
D'accord. Et selon toi, alors, du coup, dans l'enseignement supérieur, qui est donc ton contexte particulièrement, quelle est la place de l'ingénierie de formation ?
Oui, alors là, c'est un champ de discussion qui est assez... qui pourrait prendre du temps quand même. Parce que si je fais un détour... Ce que j'ai oublié de dire quand j'ai parlé de l'ingénierie politique, j'ai oublié de parler de l'Europe de la formation, qui, je l'ajoute par surcroît, mais l'Europe de la formation, la communauté européenne a fait un gros travail, sur les systèmes de convergence de certification au sein de l'espace européen. Et alors si on regarde en fait comment sont construites les certifications, par exemple en Italie du Nord, qu'on connaît bien ici, il y a une forte implication des entreprises. Il y a un gros dialogue avec le marché du travail pour construire la certification. Et dans nos masters ici à Tours, quand on forme des ingénieurs de formation, j'aime bien dire qu'un ingénieur de formation ne peut pas travailler sans bien connaître à la fois sa certification et à la fois son certificateur. Alors, pour répondre à la question, quelle est la singularité de l'ingénierie de formation dans le supérieur ? Elle est notamment régie par son certificateur de tutelle, qui est le ministère de l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, il s'appelle ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, je crois. Donc, une des particularités, en fait, de la formation universitaire, c'est de croiser enseignement et recherche. C'est inscrit dans le statut des enseignants. Alors c'est pas rien parce que on pourrait dire que c'est le seul certificateur qui a un rapport au savoir incertain. Puisque faire de la recherche, c'est par construction s'engager dans un travail où on va produire des connaissances, ou en tout cas on va avoir comme visée d'eux. Comment ça teinte l'ingénierie de formation, c'est-à-dire, on pourrait dire, comment construire des ingénieries de formation qui intègrent un type de rapport au savoir qui est tout à fait singulier, qu'on ne retrouve pas chez les autres certificateurs comme l'éducation nationale, ou le travail, ou la santé, ou la culture, ou l'agriculture, qu'on ne retrouve pas. Bon. Peut-être que s'il y avait des représentants de ces certificateurs, et ça mériterait d'échanger avec eux, mais c'est inscrit dans la configuration en fait, des formations à l'université, d'ouvrir un espace pour que, à côté des savoirs qu'on enseignerait, il y a des savoirs qu'on interroge. Donc, il y a une forme d'ingénierie qui doit pouvoir tenir compte de ça. Donc, c'est souvent par la présence en fait d'unités recherche dans le programme. Et puis, il y a un essai d'articulation entre une structuration qui forme à l'acquisition de compétences pour l'exercice du métier, mais en même temps, et là, je parle surtout en master, en même temps, le développement d'un esprit critique, qui peut paraître paradoxal, sur les contenus mêmes qui sont proposés, en fait. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut un soupçon de ruse pour construire des ingénieries de formation à l'université, pour éviter d'enseigner des choses qui seraient prises pour argent comptant sans être interrogées, parce que c'est vraiment pas ça qu'on cherche. Et en même temps, pour que les étudiants et les stagiaires de la formation continue, à l'issue de leur diplôme, disposent des qualifications nécessaires pour entrer dans l'emploi.
D'accord. Ben alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut former en fait à l'ingénierie de formation, voire même à l'ingénierie pédagogique?
À l'université?
Je ne sais pas, c'est toi qui réponds. Je trouve que la question en plus est pertinente parce que justement tu es en responsabilité sur le master CIFA.
Bah, si je donne un exemple à partir du master pour lequel je suis responsable, en fait c'est un master qui accueille des... Bon, je réponds en deux temps, mais le secteur de la formation professionnelle, en fait, de la formation continue, de la formation des adultes, c'est un secteur où on pourrait dire il y a beaucoup de faisant fonction. C'est-à-dire faisant fonction, c'est que souvent les gens commencent par être formateurs occasionnels et puis ensuite peut-être qu'ils ont un emploi premier et qu'ils forment en parallèle. Puis au bout d'un moment, ils rentrent de manière principale dans ces métiers de la formation. Et puis ils se retrouvent à prendre des responsabilités. Donc les gens qui viennent et qui s'inscrivent en master chez nous, master stratégie ingénierie en formation d'adultes, ils ont déjà une pratique. Curieusement, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre en compte leurs acquis, mais de travailler par la recherche au développement de l'esprit critique, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il y ait une sortie, ou en tout cas une prudence par rapport à une logique d'application. D'application d'un dispositif, d'application d'un programme, d'application de préconisation du commanditaire, donc d'alignement sur un discours, en laissant entendre qu'il y a une manière de faire qui est conforme, ce qui est quand même assez pressant, les discours qui laissent penser qu'il y a une manière conforme de développer des actions de formation, sont pas rares. Ils imprègnent les textes des donneurs d'ordre. Donc on fait ce travail avec eux de déconstruire presque et de se donner du temps pour penser des logiques qui sachent prendre en compte les singularités de contexte. Et à partir de là, quand même, on a aussi des apports théoriques, méthodologiques, et puis... presque un travail autour de l'identification des acteurs, de la caractérisation des enjeux, que ce soit à l'échelle des certificateurs ou des organismes de formation. Pour l'ingénierie pédagogique, c'est pas beaucoup plus simple, parce que finalement, si on resitue cette question par rapport à des métiers, et là, l'exemple le plus... caractéristiques, c'est dans les CFA, dans les campus des métiers, où on a des professionnels, qui peuvent être des horlogers, des cordonniers, des boulangers, des mécaniciens, donc qui ont commencé à devenir enseignants au centre de formation par alternance, et puis progressivement, ils se trouvent à devenir formateurs. Alors eux, ils ont déjà une expertise, en fait, et elle est nécessaire, c'est-à-dire... Ils vont développer des stratégies pédagogiques pour faire circuler des savoirs liés à la pratique, mais ancrés sur toute une connaissance acquise qui est d'ordre incarné, en fait, expérientiel. Donc là, il y a un travail peut-être d'accompagnement à la formalisation des savoir-faire acquis par l'action, quand c'est comme ça. Et puis ensuite, il y a un travail peut-être d'acquisition de notions et de concepts, comme le fait le vocabulaire, pour que les formateurs de terrain, en fait, qui sont formés par le travail, structurent un vocabulaire, en fait, pour rester sur le titre, des notions qui vont permettre de parler de la pratique pédagogique. Et après, il y a tout un champ d'organisation concrète qui est loin d'être donné d'avance, où des contenus sont travaillés avec des groupes. Ouais, par exemple, le travail avec les collectifs, c'est quelque chose qui prend du temps et qui est complètement décisif. Donc là, il y a tout un champ qui peut osciller entre le compagnonnage ou l'appropriation de méthodes, en fait, qui sont connues, hein, qui consistent à phaser dans le temps pour que un domaine de savoir puisse être appréhendé graduellement par les apprenants. Bon, ça c'est technique. Après, il y a vraiment, c'est le côté relationnel, hein, on pourrait dire un menuisier travaille avec le bois comme matière, le formateur il travaille avec le groupe, quoi. Donc il faut pouvoir je dirais presque l'appréhender expérientiellement, quoi. Ça, il y a quelque chose ça me fait penser à mon collègue Noël Denoyel, avec qui j'ai été formé à l'ingénierie pédagogique et à l'ingénierie de formation. Il était formé maintenant il est en retraite, mais il a été formé aux approches interactionnelles de Palo Alto, le travail avec le collectif, en fait, tout à fait décisif. En fait, le collectif, c'est une ressource pour travailler en pédagogie et formation. Travailler avec le groupe, c'est un bon moyen de s'économiser quand on est formateur, je pense.
D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, en fait, dans cette interview?
Non, moi, je pense que... En quelques mots, je pense que les ouvrages qui sont proposés sur la forme du vocabulaire, du dictionnaire, ce sont des outils tout à fait utiles pour définir un champ et poser des jalons en termes de repères conceptuels. On dit qu'il n'y a pas plus pratique qu'une bonne théorie, c'est-à-dire le concept, en fait, c'est ce qui permet de saisir ce qui se passe dans les situations concrètes. Donc, je salue encore l'initiative prise et je dirais un peu dans l'attente d'avoir l'ouvrage, quoi.
Oui. Tout à fait, bah ouais, on est tous impatients d'avoir l'ouvrage entre les mains, de pouvoir compulser ces pages et puis pouvoir justement consulter toutes ces notices. Écoute Hervé, je te remercie beaucoup pour cette intervention. Et puis j'en profite aussi pour remercier pour les moyens techniques Vanessa et Florine qui ont ce matin réalisé cette vidéo.
Merci beaucoup.
Merci.